Annie. Première partie, chapitre 13. Après le déjeuner, il proposa un tour dans les jardins et dans le parc. Mais Madame Barinck se déclara fatiguée par la nuit passée en chemin de fer. D'ailleurs, elle les connaissait, ces jardins, et les longues promenades qu'elle y avait faites autrefois en compagnie de son beau-frère, quand elle lui demandait son intervention contre leurs créanciers, ne lui avaient laissé que de mauvais souvenirs. « Moi, je ne suis pas fatiguée, » dit Annie. « Surtout, n'encourage pas ton père dans ses folies et ne te mets pas avec lui contre moi. » « Veux-tu que nous commencions par les communs ?» dit-il en sortant. « Puisque nous allons tout voir, commençons par où tu voudras. » Ils étaient considérables, ces communs. Ayant été bâtis à une époque où l'on construisait à bas prix, on avait fait grand, et les écuries, les remises, les étables, les granges auraient suffi à 3 ou 4 terres comme celle d'Ourteau. Tout cela, bien que n'étant guère utilisé, en très bon état de conservation et d'entretien. En sortant des cours qui entourent ces bâtiments, ils traversèrent les jardins et descendirent aux prairies. Pour les protéger contre les érosions du gave dont le cours change à chaque inondation, on ne coupe jamais les arbres de leurs rives, et toutes les plantes aquatiques, joncs, lèches, roseaux, massettes, sagittaires, les grandes herbes, les buissons, les taillis d'osiers et de coudriers se mêlent sous le couvert des saules, des peupliers, des trembles, des aulnes, en une végétation foisonnante au milieu de laquelle les forts étouffent les faibles dans la lutte pour l'air et le soleil. Malgré la solidité de leurs racines, beaucoup de ces hauts arbres arrachés par les grandes crues qui, avec leurs eaux furieuses, roulent souvent des torrents de galets, se sont penchés ou se sont abattus de côté et d'autre, jetant ainsi des ponts de verdure qui relient les rives aux îlots entre lesquels se divisent les petits bras de la rivière. C'est à une certaine distance seulement de cette lisière sauvage que commence la prairie cultivée. Et encore, nulle part n'a-t-on coupé les arbres de peur d'un assaut des eaux, toujours à craindre. Dans ces terres d'alluvions profondes et humides, ils ont poussé avec une vigueur extraordinaire, au hasard, là où une graine est tombée, où un rejeton s'est développé, sans ordre, sans alignement, sans aucune taille, branchu de la base au sommet, et en suivant les contours sinueux du gave, ils forment une sorte de forêt vierge, avec de vastes clairières d'herbes grasses. « Ah, le beau coraux !» s'écria Annie. « Que c'est frais, vert, poétique ! Est-il possible vraiment de deviner ainsi la nature avec la seule intuition du génie ? Certainement, coraux n'est jamais venu ici et il a fait ce tableau 100 fois. « Cela te plaît ? Dis que je suis saisi d'admiration. Tout y est, jusqu'à la teinte grise des lointains, dans une atmosphère limpide, jusqu'aux nuances délicates de l'ensemble, jusqu'à cette beauté légère qui donne des envolées à l'esprit. C'est audacieux à moi, mais dès demain, je commence une étude. Alors, tu n'entends pas renoncer à la peinture ? Maintenant ? Jamais de la vie. C'était à Paris que, dans des heures de découragement, je pouvais avoir l'idée de renoncer à la peinture quand je me demandais si j'aurais jamais du talent, ou au moins la moyenne de talent qu'il faut pour plaire à ceci ou à cela, au maître, à la critique, aux camarades, aux ennemis, au public. Mais maintenant, que m'importe de plaire ou de ne pas plaire, pourvu que je me satisfasse moi-même ? C'est quand on travaille en vue du public qu'on s'inquiète de cette moyenne. Pour soi, il est bien certain qu'on n'en a jamais assez. Alors il n'y a pas besoin de s'inquiéter du plus ou du moins. On va de l'avant. On travaille pour soi, et c'est peut-être la seule manière d'avoir de l'originalité ou de la personnalité. Qu'est-ce que ça nous fait, à cette heure, que mes croûtes tapissent les murailles incommensurables du château? Ça n'est plus du tout la même chose que si elles s'entassaient dans mon petit atelier de Montmartre sans trouver d'acheteur. » Elle prit le bras de son père et se serrant contre lui tendrement, « C'est comme si je ne trouvais point de mari. Maintenant, qu'est-ce que cela nous ferait? Tu penses bien qu'en fait de mariage, je ne pense plus aujourd'hui comme le jour de notre soirée, où tu as été si étonnée, si peinée, en me voyant décidée à accepter n'importe qui, pourvu que je me marie. Te souviens-tu que je te disais qu'à 20 ans, une fille sans dot était une vieille fille, tandis qu'à 24 ou 25, celle qui avait de la fortune était une jeune fille? Puisque me voilà rajeunie, et pour longtemps, par un coup de baguette magique, je n'ai pas à me presser. Il y a un mois, c'était au mariage seul que je m'attachais. Désormais, ce sera le mari seul que je considérerai pour ses qualités personnelles, pour ce qu'il sera réellement. Et s'il me plaît, si je rencontre un peu en lui du prince charmant auquel j'ai rêvé autrefois, je te le demanderai, quel qu'il soit, et je te le donnerai, confiant dans ton choix. Voilà donc une affaire arrangée qui, de mon côté, te laisse toute liberté. Habitons ici, rentrons à Paris, il en sera comme tu voudras. Mais, maman, imagine-toi que depuis que l'héritage est assuré, nous avons passé notre temps à chercher des appartements. Quel enfantillage! S'il n'y en a pas un d'arrêté boulevard des Italiens, c'est parce qu'elle hésite entre celui-là et un autre rue Royale. Et permets-moi de te dire que je ne trouve pas du tout, en me plaçant au point de vue de maman, que ce soit un enfantillage. Et les Parisiennes, elles n'aiment que Paris. Comme toi, née dans un village, tu n'aimes que la campagne. Rien n'est plus agréable pour toi que ces prairies, ces champs, ces horizons et la vie tranquille du propriétaire campagnard. Rien n'est plus doux pour maman que la vue des boulevards et la vie mondaine. Tu étouffes dans un appartement? Elle ne respire qu'avec un plafond bas sur la tête. Tu veux te coucher à 9 heures du soir? Elle voudrait ne rentrer qu'au soleil levant. Mais en vous proposant d'habiter Ourtaud, je ne prétends pas vous priver entièrement de Paris. Si nous restons ici 8 ou 9 mois, nous pouvons très bien en donner 3 ou 4 à Paris. Cette vie est celle de gens qui nous valent bien, qui s'en contentent, s'en trouvent heureux et ne passent pas pour des imbéciles. Tu me rendras cette justice, mon enfant, que depuis que tu as des yeux pour voir et des oreilles pour entendre, tu ne m'as jamais entendu me plaindre, ni de la destinée, ni de l'injustice des choses, ni de personne. C'est bien vrai, mais je puis le dire aujourd'hui. Depuis longtemps, à bout de force, je me demandais si je ne tomberais pas en chemin. Ces 20 dernières années de vie parisienne, de travail à outrance, de soucis, de privations, sans un jour de repos, sans une minute de détente, m'ont épuisé. Cependant, j'allais, simplement parce qu'il fallait aller, pour vous. Parce qu'avant de penser à soi, on pense au sien. C'est ici que j'ai senti mon écrasement par ma renaissance. Il faut donc que vous donniez à ma vieillesse la vie naturelle qui a manqué à mon âge viril. Et c'est elle que je vous demande. Et tu ne doutes pas de la réponse, n'est-ce pas? D'ailleurs, cette raison n'est pas la seule qui me retienne ici. J'en ai d'autres qui, précisément parce qu'elles ne sont pas personnelles, n'en sont que plus fortes. J'ai toujours pensé que la richesse impose des devoirs à ceux qui la détiennent, et qu'on n'a pas le droit d'être riche rien que pour soi, pour son bien-être ou son plaisir. Sans avoir rien fait pour la mériter, du jour au lendemain, la fortune m'est tombée dans les mains. Eh bien, maintenant, il faut que je la gagne, et, pour cela, j'estime que le mieux est que je l'emploie à améliorer le sort des gens de ce pays que j'aime, parce que j'y suis né. » Cette proposition lui fit regarder son père avec un étonnement où se lisait une assez vive inquiétude. Qu'entendait-il donc par employer la fortune qui lui tombait aux mains à l'amélioration du sort des paysans d'Ourteau? Ce n'est pas impunément que, dans une famille, on s'habitue à voir critiquer le chef, discuter ses idées, mettre en doute son infaillibilité, contester son autorité et le rendre responsable de tout ce qui va mal dans la vie. Le cas était le sien. Que de fois, depuis son enfance, avait-elle entendu sa mère prendre son père en pitié? « Certainement, je ne te fais pas de reproche, mon ami. » Que de fois aussi, sa mère, s'adressant à elle, lui avait-elle dit « Ton pauvre père !» Cette compassion, pas plus que ses blâmes discrets, n'avait amoindri sa tendresse pour lui. Elle le chérissait, elle l'aimait, pauvre père, d'un sentiment aussi ardent, aussi profond, que si elle avait été élevée dans des idées d'admiration respectueuse pour lui. Mais enfin, ce respect précisément manquait à son amour qui ressemblait plus à celui d'une mère pour son fils, pauvre enfant, qu'à celui d'une fille pour son père. En adoration devant lui, non en admiration. Pleine d'indulgence, disposée à le plaindre, à le consoler, toujours à l'excuser, mais par cela même, à le juger. Dans quelle aventure nouvelle voulait-il s'embarquer? Il répondit au regard inquiet qu'elle attachait sur lui. « Ton oncle, dit-il, s'était peu à peu désintéressé de cette terre pour toutes sortes de raisons. Maladie des vignes, exigence des ouvriers ensuite, volerie des colons aussi, de sorte que, dans l'état d'abandon où il la laissait, après l'avoir entièrement reprise entre ses mains, elle ne lui rapportait pas 2%, et encore, n'était-ce que dans les très bonnes années. Vous seriez les premières, ta mère et toi, à me blâmer si je continuais de pareils errements. T'ai-je jamais blâmé? Oh, je sais que tu es une trop bonne fille pour cela, mais enfin il n'en est pas moins vrai que vous seriez en droit de trouver mauvaise la continuation d'une pareille exploitation. Tu veux arracher les vignes malades? Je veux transformer en prairies artificielles toutes les terres propres à donner de bonnes récoltes d'herbes. Le foin qui, il y a quelques années, se vendait 25 sous les 50 kilos, se vend aujourd'hui 5 francs, et avec le haut prix qu'a atteint la main-d'œuvre pour le travail de la vigne et du maïs, alors que les ouvriers exigent par jour 2 francs de salaire, 1 livre de pain et 3 litres de vin, il est certain qu'il y a tout avantage à produire, au lieu de vin médiocre, de l'herbe excellente. Ce que je veux obtenir, non pour vendre mon foin, mais pour nourrir mes vaches, faire du beurre et engraisser des porcs avec le lait doux et crémé. De nouveau, il vit le regard inquiet qu'il avait déjà remarqué se fixer sur lui. « Décidément, dit-il, il faut que je t'explique mon plan en détail, sans quoi tu vas t'imaginer que l'héritage de ton oncle pourrait bien se trouver compromis. Allons jusqu'à ce petit promontoire qui domine le cours du Gave. Là, tu comprendras mieux mes explications. » Ils ne tardèrent pas à arriver à ce mouvement de terrain qui coupait la prairie et la rattachait par une pente douce aux collines. « Tu remarqueras, dit-il, que cette éminence se trouve à l'abri des inondations les plus furieuses du Gave, et qu'un canal de dérivation qui la longe à sa base produit ici une chute d'eau autrefois utilisée, maintenant abandonnée depuis longtemps déjà, mais qui peut être facilement remise en état. Cela observé, je reprends mon explication. Je t'ai dit que je commençais par arracher toutes les vignes qui ne produisent plus rien. Mais, comme pour transformer une terre défrichée en une bonne prairie, il ne faut pas moins de 3 ans, des engrais chimiques pour lui rendre sa fertilité épuisée et des cultures préparatoires en avoine, en luzerne, en sainfoin, ce n'est pas un travail d'un jour, tu le vois. En même temps que je dois changer l'exploitation de ces terres, je dois aussi changer le bétail qui consommera leurs produits. Ton oncle pouvait, avec le système adopté par lui, se contenter de la race du pays, qui est la race basquaise, plus ou moins dégénérée, de petite taille, nerveuse, sobre, à la robe couleur grain de blé, aux cornes longues et déliées, comme tu peux le voir avec les vaches qui paissent au-dessous de nous. Cette race, d'une vivacité et d'une résistance extraordinaire au travail, est malheureusement mauvaise laitière. Or, comme ce que je demanderai à mes vaches, ce sera du lait, non du travail, je ne peux pas la conserver. Si jolies les basquaises! En obéissant à la théorie, je les remplacerai par des normandes, qui, avec nos herbes de première qualité, me donneraient une moyenne supérieure à 1800 litres de lait. Mais, comme je ne veux pas courir d'aventure, je me contenterai de la race de Lourdes, qui a le grand avantage d'être du pays, ce qui est à considérer avant tout, car il vaut mieux conserver une race indigène, avec ses imperfections, mais aussi avec sa sobriété, sa facilité d'élevage et son acclimatation parfaite, que de tenter des améliorations radicales qui aboutissent quelquefois à des désastres. Me voilà donc, quand la transformation du sol est opérée, à la tête d'un troupeau de 300 vaches que le domaine peut nourrir. 300 vaches ? Qui me donnent une moyenne de 450 000 litres de lait par an, ou 12 à 1300 litres par jour. Et qu'en fais-tu de cette mer de lait ? Du beurre ? C'est précisément pour que tu te rendes compte de mon projet que je t'ai amené ici. Pour loger mes vaches, au moins quand elles ne sont pas encore très nombreuses, j'ai les bâtiments d'exploitation qui, dans le commencement, me suffisent. Mais je n'ai pas de laiterie pour emmagasiner mon lait et faire mon beurre. C'est ici que je la construis, sur ce terrain, à l'abri des inondations et à proximité d'une chute d'eau, ce qui m'est indispensable. En effet, je n'ai pas l'intention de suivre les vieux procédés de fabrication pour le beurre, c'est-à-dire d'attendre que la crème ait monté dans les terrines et de la battre alors à l'ancienne mode. Aussitôt trait, le lait est versé dans des écrémeuses mécaniques qui, tournant à la vitesse de 7000 tours à la minute, en extrait instantanément la crème. On la bat aussitôt avec des barattes danoises. Des délaiteuses prennent ce beurre ainsi fait pour le purger de son petit lait. Des malaxeurs rotatifs lui enlèvent son eau. Enfin, des machines à mouler le compriment et le mettent en pain. Tout cela se passe, tu le vois, sans l'intervention de la main d'ouvrier plus ou moins propre. Ce beurre obtenu, je le vends à Bordeaux, à Toulouse, l'été dans les stations d'eau, Biarritz, Cotteret, Luchon. L'hiver, je l'expédie jusqu'à Paris. Mais le beurre n'est pas le seul produit utilisable que me donnent mes vaches. » Elle le regarda avec un sourire tendre. « Il me semble, dit-elle, que tu récites la fable de la laitière et le pot au lait. » « Précisément, et nous y arrivons, en effet, au cochon. Le porc à s'engraisser coûtera peu de son, et même, il n'en coûtera pas du tout. » Après la séparation de la crème et du lait, il me reste au moins 1200 litres de lait écrémé doux, avec lequel j'engraisse des porcs installés dans une porcherie que je fais construire au bout de cette prairie, le long de la grande route, où elle est isolée. Pour ces porcs, je procède à peu près comme pour mes vaches, c'est-à-dire qu'au lieu d'essayer des porcs anglais du Yorkshire ou du Berkshire, je croise ces races avec notre race béarnaise et j'obtiens des bêtes qui joignent la rusticité à la précocité. Tu connais la réputation des jambons de Bayonne. À Orthez se fait en grand le commerce des salaisons. Je ne serai donc pas embarrassé pour me débarrasser dans de bonnes conditions de mes cochons, qui, engraissés avec du lait doux, seront d'une qualité supérieure. Voilà comment, avec mon beurre, mes veaux et mes porcs, je compte obtenir de cette propriété un revenu de plus de 300 000 francs au lieu de 40 000 qu'elle donne depuis un certain nombre d'années. Mes calculs sont établis, et comme j'ai eu à étudier une affaire de ce genre à l'Office cosmopolitain, il repose sur des chiffres certains. Que de fois, en dessinant des plans pour cette affaire, ai-je rêvé à sa réalisation et me suis-je dit « si c'était pour moi ». Voilà que ce rêve peut devenir réalité et qu'il n'y a qu'à vouloir pour qu'il soit le nôtre. Mais l'argent, il y a dans la succession des valeurs qu'on peut vendre pour les frais de premier établissement, qui, d'ailleurs, ne sont pas considérables. 300 vaches à 450 francs l'une coûtent 135 000 francs. Les constructions de la laiterie et de la porcherie, ainsi que l'appropriation des étables, n'absorberont pas 60 000 francs. Les défrichements, 50 000. Mettons 50 000 pour l'imprévu. Nous arrivons à 245 000 francs, c'est-à-dire à peu près le revenu que ces améliorations, ces révolutions si tu veux, nous donneront. Crois-tu que cela vaille la peine de les entreprendre? Le crois-tu? Elle avait si souvent vu son père jongler avec les chiffres qu'elle n'osait répondre. Cependant, elle était troublée. « Certainement, dit-elle enfin, si tu es sûr de tes chiffres, ils sont tentants. » « J'en suis sûr. Il n'est pas un détail qui ait été laissé de côté. Dépenses, produits, tout a été établi sur des bases solides qui ne permettent aucun aléa. Les dépenses forcées, les produits abaissés plutôt que grossis. Mais ce n'est pas seulement pour nous que ces chiffres sont tentants, comme tu dis. Ils peuvent aussi le devenir pour ceux qui nous entourent, pour les gens de ce pays. Et c'est à eux que je pensais, en parlant tout à l'heure des devoirs des riches. Jusqu'à présent, nos paysans n'ont tiré qu'un médiocre produit du lait de leurs vaches. Aussitôt que mes machines fonctionneront et que mes débouchés seront assurés, je leur achèterai celui qu'ils pourront me vendre et le paierai sans faire aucun bénéfice sur eux. Ainsi, je verserai dans le pays 200-300 000 francs par an qui non seulement seront une source de bien-être pour tout le monde, mais encore qui peu à peu changeront les vieilles méthodes de culture en usage ici. Sur notre route, depuis Puyot, tu as rencontré à chaque instant des champs de bruyères et de fougères, d'ajoncs, c'est ce qu'on appelle des touillas, et on les conserve ainsi à l'état sauvage pour couper ces bruyères et en faire un engrais plus que médiocre. Quand le nombre des vaches aura augmenté par le seul fait de mes achats de lait, la quantité de fumier produite augmentera en proportion. Et en proportion aussi, les touillas diminueront d'étendue. On les mettra en culture parce qu'on pourra les fumer. De sorte qu'en enrichissant d'abord le petit paysan, je ne tarderai pas à enrichir le pays lui-même. Tu vois la transformation et tu comprends comment, en faisant notre fortune, nous ferons celle des gens qui nous entourent. N'est-ce pas quelque chose, cela ? Elle s'était rapprochée de lui à mesure qu'il avançait dans ses explications et lui avait pris la main. Quand il se tut, elle se haussa et lui passant un bras autour des épaules, elle l'embrassa. « Tu me pardonnes ? » dit-elle. « Te pardonner ? Que veux-tu que je te pardonne ? » demanda-t-il en la regardant tout surpris. « Si je te le disais, tu ne me pardonnerais pas. Alors, donne-moi l'absolution quand même. Tu ne voulais pas habiter Ourteau. Donne-moi l'absolution. Je te la donne. Maintenant, sois tranquille. Je te promets que ce sera maman elle-même qui te demandera à rester ici.